Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai une voix de dinosaure. Vous me pardonnerez. Je me réjouis du choix des chants ce matin, parce que pendant une grande partie de cette semaine, je me posais la question, quelle est la pensée que je dois apporter ce matin à mes frères et sœurs. Alors, j'ai toujours le disque dur qui tourne sans arrêt. Alors, ce n'est pas un jeu de roulette non plus. Et c'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de pouvoir me donner la pensée. Et j'avais deux pensées sur mon cœur qui étaient fortes. Le thème, c'était la grâce et l'amour, ou l'amour et la grâce. Et puis l'autre, cette pensée qui... Ben vous avez le titre en gros là. Alors cela, ça revenait en boucle. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois que cela donne le ton ce matin du message. Et j'ai envie de dire, c'est l'amour de Dieu, c'est aussi la grâce de Dieu pour nous. Et je me réjouis de pouvoir affirmer que dans mon cœur, eh bien, il n'y a plus de condamnation. J'aimerais, pour introduire ce message ce matin, lire deux textes qu'on trouve dans Ézéchiel, chapitre 34 et verset 11. Il nous dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Et puis l'autre texte, qui est quelques versets plus loin, verset 16, il dit, je chercherai celle qui est perdue, qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Alors, je ne lis pas la fin du verset parce que la première partie me ravit. Où il dit, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Alors c'est vrai que ces promesses concernent en premier lieu Israël, de cet Israël qui est dispersé. Mais moi je me dis que l'Ancien Testament, c'est aussi l'ombre des choses à venir. Et je me réjouis pour cela parce que les textes que je trouve dans l'Ancien Testament, eh bien, ils me font souvent du bien. Parce que je vois que les promesses qui s'appliquent même pour une nation peuvent s'appliquer aussi pour nous encore aujourd'hui. C'est quelque chose d'important. Alors, j'aimerais ce matin parler, en même temps, parler de guérison intérieure. Parce que, quand on parle de guérison intérieure, et s'il y a besoin de guérison, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a une maladie, mais en tout cas, il y a une souffrance. S'il y a guérison intérieure, ça veut dire que l'homme, il est fait de ce que nous voyons, mais aussi de son intérieur, que la Bible appelle l'homme intérieur. Et puis, s'il y a guérison intérieure, c'est qu'il y a un remède par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 7, verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Oui, les choses se passent à l'intérieur. Il dira même dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, et ça je m'en aperçois tous les jours, hein, notre homme intérieur, lui aussi, se renouvelle tous les jours. » Et ça, ça me réjouit. J'ai l'impression d'être un peu plus spirituel que lorsque j'avais 20 ans. Oui, nous ne perdons pas courage. Ce qui veut dire qu'il peut arriver qu'on perde courage. Et puis, je citerai encore l'apôtre Paul, je l'aime bien cet homme, parce qu'il m'apporte énormément de choses. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important. D'être fortifié. J'ai pris tout à l'heure un peu de sirop pour fortifier ma gorge. Et une petite pastille. Mais pour l'homme intérieur, je n'ai pas besoin de petites pastilles ou de sirop. J'ai besoin de la parole. Et tout à l'heure, nous avons chanté « Ta parole, elle se donne. » Alléluia. Et ce matin, Dieu veut donner sa parole à chacun d'entre nous. Dieu a une parole pour toi ce matin. Une parole de grâce, une parole d'amour. Non pas une parole de condamnation, mais une parole pour fortifier ton cœur. Alors c'est vrai qu'il y a des domaines où il y a besoin de guérison, des domaines qui nécessitent vraiment que Dieu intervienne. Il y a besoin vraiment du secours. Pouvons les uns et les autres être choqués par différentes choses, par des événements plus ou moins loin qui nous touchent, parfois même de près. Nous pouvons subir des traumatismes qu'il est difficile de résorber. Nous avons peut-être et nous connaissons peut-être des trahisons, des abandons, des déceptions. Ça, c'est pour les blessures. Et puis, il y a aussi le poids du passé, des souvenirs qui parfois peuvent nous hanter, des choses qui nous angoissent, des choses qui nous font du mal, des choses qu'on a du mal à se défaire. Oui. Et puis, il y a aussi des peurs, la peur. J'entends la télévision des hommes, des femmes, qui disent aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de sortir, j'ai peur d'aller dans la rue. Mais le chrétien aussi peut être touché par des peurs. David en a parlé, vous pourrez lire dans le psaume 34, on ne va pas le lire ce matin. Et c'est vrai qu'il nous faut parfois dépenser beaucoup d'énergie pour lutter contre ces choses. Et puis, il y a la culpabilité. La culpabilité peut nous toucher les uns et les autres. Des fois, le poids du remords, les regrets, les situations d'échec, la difficulté de faire la différence entre la véritable culpabilité ou la fausse culpabilité héritée parfois de tabous culturels, sociaux. Mais qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils sont puissants parce qu'ils agissent dans notre conscience qui se trouve affaiblie. Et c'est ainsi que cela nous amène parfois manquer de confiance en soi, que ça devient chronique, et peut-être que nos réactions eh bien, se transforment en agressivité, et peut-être parfois où on devient irascible. C'est aussi quand on est dans cet esprit de culpabilité, une tendance fâcheuse, qui consiste à toujours juger. Juger d'une manière négative, juger les autres, d'avoir un esprit de critique. Et puis, il y a, j'allais dire, la vie que l'on a, c'est-à-dire notre vécu. Parfois, on voit des frères et sœurs qui ont du mal à vivre leur vie d'aujourd'hui. Ils ont du mal à accepter cette vie. Ils n'acceptent pas les conditions. Elles n'acceptent pas les circonstances de la vie. Et puis, il y a aussi l'esclavage du péché. Il faut avoir la notion de ce qu'est le péché. Le péché, je crois que c'est manquer de bonheur, c'est ça ?
Se tromper
de bonheur, hein ? Eh oui, moi je dis souvent c'est manquer la cible. Mais les deux sont valables. Se tromper de bonheur. Eh oui. Oui, parce que le péché, c'est pas quelque chose de hideux parfois. Hein. C'est parfois quelque chose qui peut être agréable pour l'homme, peut être agréable pour la chair. Et pour lequel il nous faut lutter. Et que peut-être dans notre propre vie, il y a encore un péché qui n'a pas été vaincu. Peut-être tout simplement parce que nous l'aimons, ce péché. Il n'a pas réussi à le rendre haïssable. Et que dans le secret, eh bien, il nous tient. Et puis, il y a aussi les luttes spirituelles. Qui n'a pas de lutte spirituelle ? C'est une réalité. C'est une réalité à laquelle le chrétien doit faire face. Parce que ces luttes spirituelles peuvent générer des angoisses, des oppressions. Et puis en même temps, il y a aussi l'ignorance. Notre ignorance qui aggrave souvent le problème. Et puis un autre point, les conflits non réglés. Alors qu'il y ait des conflits, j'allais dire, c'est tout à fait normal. On n'est pas dans une société de bisounounours. Et même au milieu du monde chrétien, eh bien, il peut y avoir des conflits ou des zones de conflits. Cela, c'est aussi une réalité à laquelle le chrétien doit faire face, et les conflits sont variés. Ça peut être dans la famille, ça peut être au sein du couple, ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Ça fait quand même beaucoup de choses, tout ça. Et puis, le dernier point, c'est le refus d'admettre la possibilité d'avoir de tels problèmes. C'est cela. Et souvent, quand vous demandez à un frère, à une sœur, comment ça va ? Ça va bien. Et vous entendez la petite voix derrière qui vous dit, c'est pas vrai. Eh oui, c'est comme cela. Ce refus d'admettre la possibilité que, eh bien, on est en difficulté. Qu'on a des soucis, qu'on a des problèmes. Oui. Mais, vous savez, faire la politique de l'autruche n'a pas résolu, ne résout pas forcément les problèmes. Occulter certaines choses ne les efface pas. Vous savez, on peut mettre sur cet écran, hein, Florent, il peut nous mettre un écran noir ou un écran blanc, mais quand vous rappuyez, on va retrouver les mêmes choses. C'est cela. Et donc, ce que je m'aperçois souvent, c'est qu'il y a malheureusement dans notre vie une fausse conception de la foi et je dirais qui augmente en même temps, j'allais dire, ses difficultés. Et celui qui souffre développe une culpabilité par rapport à son milieu social, par rapport à l'Église, son vécu dans l'Église, son vécu en famille. Mais au nom de la foi, eh bien, ces souffrances peuvent être décuplées parce que nous en faisons souvent un schéma réducteur, parce que on se dit « je suis chrétien, donc tout va bien ». Mais on sait pertinemment que ce n'est pas bien. Non. Vous savez, rien ne se résout d'une manière magique dans la vie chrétienne. C'est vrai qu'on a la parole, on a la prière, il y a l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas tout. Nous entendons des exhortations, nous entendons des témoignages vécus, mais je crois qu'il ne faut pas que nous nous masquions la réalité. D'ailleurs, nous avons chanté sur ce chant « Pardon, Seigneur, pardon ». Oui. C'est vrai, je trouve que parfois nous ne nous pardonnons pas suffisamment. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons tout accepter. Et si nous n'acceptons pas, on nous dit qu'on est susceptible. Alors que peut-être un pardon pourrait régler beaucoup de choses. Oh, le pardon ne passe pas tout, bien entendu. C'est vrai que nous avons besoin de soins dans ce domaine. Nous avons chanté l'amertume. L'amertume. Des fois, il y a des amertumes permanentes. Il y a aussi la pitié de soi. Il y a les rébellions dont nous avons parlé il y a quelque temps, des disputes, tout cela dans nos relations, des convoitises secrètes non assouvies, la culpabilité, j'en reviens dans cela, des pensées mauvaises, des désirs peut-être. Envie de claquer la porte, fuir l'Église, peut-être voir rejeter Dieu, mais aussi dans l'incapacité de le faire. Parce que nous savons très bien que si nous prenons ce chemin-là, eh bien ça va aggraver encore les choses. Alors il est facile d'imaginer que ce que seront les conséquences personnelles sur ce plan-là. Dans le domaine conjugal, dans le domaine familial et autres, si nous n'appliquons pas, j'allais dire, de remède à temps. Que de chutes spirituelles, parce que nous n'avons pas réglé certains points que nous avons soulevés ce matin. Fabien nous disait l'autre dimanche qu'une petite chose, il n'était pas dans le plan et dans la volonté de Dieu, on traînait pendant 400 ans. Ce qui veut dire combien de générations ont été touchées par un manquement, par une faiblesse, par un péché, par un pardon qui n'a pas été donné, ou pour une façon de faire que Dieu n'approuve pas et qui se répercute, on ne peut jamais imaginer les conséquences de nos actions, de nos paroles, quand nous agissons. Oui, il est facile d'imaginer, et je me dis aussi, que de souffrances ajoutées aux souffrances. La liberté se trouve dans la soumission aux lois spirituelles, non pas à un règlement intérieur d'église, non pas à la soumission à un pasteur, mais la soumission aux lois spirituelles. Et lorsque nous sommes soumis aux lois spirituelles, alors nous pouvons être soumis aux autres choses, nous en avons parlé il n'y a pas bien longtemps. Dieu a laissé des promesses dans sa parole, et vous le savez bien. Et pour que ces paroles prennent effet, il faut que le chrétien se soumette complètement au principe de la parole. Il n'y a pas de solution si on rejette la conversion. Et vous savez ce que c'est que la conversion. C'est-à-dire, ah, mais je me suis converti il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 6 mois, il y a 1 an. Ça a changé quelque chose dans votre vie, la conversion. Je l'espère. Parce que si ça n'a pas changé grand-chose, il va falloir vous poser la question. Oui. La conversion. Quand on demande, quand on parle de repentance, de pardon, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais il y a aussi la repentance. Moi, je n'entends plus dans l'Église la repentance. On a l'impression que c'est du domaine privé. Alors oui, il y a des choses qui sont dans le domaine privé, mais il y a aussi dans l'Église. Quand j'ai blessé un frère ou une sœur, eh bien, je dois m'humilier, demander pardon. Chant que nous avons chanté tout à l'heure, hein, à lui seul, il voit une prédication. Hein. Eh oui. Que dire de la sanctification? Oui, que dire de la soumission à Dieu? Ou bien de notre consécration? Ou de notre reconsécration? Est-ce que notre vie chrétienne est devenue comme une espèce de routine? On vit toute la semaine comme le monde? Et le dimanche, on fait un petit peu de religion pendant les 2 heures qu'on va être au culte. Non. Alors je me dis, comment sortir du cercle infernal? Comment trouver la paix dans tout cela? Comment avoir cette vie équilibrée, cette vie heureuse, cette vie où je m'épanouis, où je me réjouis? Oui, on n'occulte pas les difficultés de la vie chrétienne, non. Mais il y a des solutions, mes frères et sœurs. Il y a des réponses, Dieu apporte des réponses. Oui, comment sortir de tout cela? Le problème est posé. Vous savez, il faut faire un diagnostic. Vous savez, votre voiture, vous l'emmenez de temps en temps à la révision. Maintenant, ça devient obligatoire. Parce que nous, les Français, on est tellement indisciplinés que tant que notre voiture, elle roule, ça roule. Condition d'y mettre un petit peu d'essence de temps en temps. De mettre un rajout d'huile si elle en consomme un peu trop, mais on continue à rouler. Jusqu'au jour où il y a la panne sur l'autoroute. Oui. Oui, c'est bien de faire un diagnostic. Vous savez, moi, quand j'emmène ma voiture au garage, ils viennent avec un ordinateur, comme tout ça, hein, et puis une belle prise, multiprise, et tout ça, ils branchent ça sur un autre appareil. Et ils sont en train d'ausculter ma voiture de fond en comble. Et puis ils disent, tiens, à tel point, il y a un petit problème. À tel autre, c'est OK. L'autre, ça marche. Ah, là, faut changer les disques de frein. Oui, c'est important, les disques de frein, quand même. Hein. Et oui. Alors, Paul, lui, il a fait un diagnostic. Dans Romains, chapitre 7, verset 24, il a dit... Oh, je suis un misérable. Oh, de la bouche de l'apôtre Paul, hein, c'est un peu choquant. Comment ça peut-il dire « je suis un misérable » ? Qui me délivrera du corps de cette mort ? Vous n'êtes jamais posé cette question-là ? Mon esprit va bien, mais c'est mon corps qui ne suit pas. Eh oui, c'est ça un peu la difficulté. Malheureux que je suis. Oui, l'apôtre Paul dit en fin de compte, il est malheureux. On pourrait dire, mais comment l'apôtre Paul peut-il être malheureux, lui qui nous apprend tellement de choses pour être heureux? Oui, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne vers la mort? Ah là 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 là. On a l'impression, là, quand l'apôtre Paul dit cela, qu'il y a une souffrance, il y a l'existence d'une souffrance due à une prise de conscience d'une réalité. Ça ne vous est jamais arrivé de souffrir parce que il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui ne va pas, et puis ça vous tenaille, ça vous rend malheureux. Non ? Tout va bien ? M'arrive des fois même de me réveiller la nuit. Eh oui. Une prise de conscience de la réalité. Et cette prise de conscience, c'est celle de l'homme qui d'un seul coup se sent sans Dieu, sans Christ, dans sa propre vie, parce qu'il se dit, mais, ah, je ne fais pas le bien. Je ne fais pas le bien que je veux. Et en même temps, je pratique le mal que je ne veux pas faire. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Oh, j'ai affaire à des chrétiens parfaits ce matin. C'est des super sanctifiés. Il n'y a que moi qui ai pu vivre ces choses-là. Alors je me dis, c'est bien, tu te prêches à toi-même ce matin. Mais c'est vrai qu'avant de vous apporter la parole, je me prêche à moi-même. C'est vrai. Et même l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 7, verset 21, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. » Eh oui, le mal, il est présent à côté de moi. Je le vois tous les jours, le mal. Il essaie de me titiller de temps en temps. Et même, il dit un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans Romains 7, 24, « Malheureux je suis !» Il en est malheureux de ce mal, l'apôtre Paul. « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il dit même, « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Waouh ! Bon, 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 bon. C'est pas bien dans sa peau, hein, l'apôtre Paul. Hein. Moi, ça m'a toujours interpellé, ce texte. Comment, lui, l'apôtre Paul, pouvait-il avoir une telle réaction ? Eh bien, je reviens à dire au début de ce moment, c'est que il a conscience de l'existence de cette souffrance en lui. Il a conscience de la réalité. Et je crois que souvent, nous, chrétiens, nous n'avons pas conscience de la réalité. Nous faisons comme s'il n'y avait pas de problème, comme si les choses n'étaient pas graves. Mais elles sont graves. Alors, il dit, « Qui me délivrera de ce corps ?» Alors, j'aimerais aussi enlever toute ambiguïté. Il ne faut pas que le verbe délivrer employé par l'apôtre Paul nous pose problème en croyant que nous sommes possédés. Ça n'a rien à voir avec la possession dont je parle ce matin. Ça n'a rien à voir avec les démons. On n'a pas besoin d'appeler l'exorciste du coin pour venir prier pour nous. Enfin, pas pour cela toujours. Et dans ce texte cité par Paul, eh bien, comme je viens de le dire, il ne parle pas d'une emprise démoniaque, mais tout simplement celle de la chair. Celle de la chair. Il n'y a pas de démon derrière chacun des problèmes que nous avons soulevés tout à l'heure. Il n'y a pas forcément un esclavage. Et l'expression « être lié » est parfois un abus de langage. C'est cela qu'il faut savoir. Et c'est pourquoi le combat se situe entre le désir de la chair et ceux de l'esprit. Vous pourrez ainsi lire l'Épître aux Galates au chapitre 5. Alors, dans tout cela, bien entendu, vous imaginez bien qu'on ne peut pas rester sur un constat. Il y a une réponse. Et la réponse, elle est divine. Et là, je cite encore Paul qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Et c'est pourquoi dans Romains 8, 1, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » qui marche non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors ça, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Non? Eh oui. Eh oui. Moi, ça me réjouit. Il n'y a plus de condamnation. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il y a des aspects, bien entendu, différents, et plutôt différents aspects de la grâce spirituelle. Il y a sa condition, et puis son absolu. Moi, dans sa condition, je dirais, c'est être en Jésus-Christ. Parce qu'on peut être chrétien sans être en Jésus-Christ. Alors, vous allez dire, c'est anachronique, mais peu importe. Être en Jésus-Christ. Est-ce que je suis vraiment en Jésus-Christ? Cela sous-entend la foi, une vraie foi en Dieu, et aussi une conversion, une vraie conversion, pas de la peau près, une vraie repentance, et un abandon des péchés, et une acceptation des promesses de Dieu, une acceptation de ce qui a été acquis à la croix. Et puis, son absolu, plus aucune condamnation. Et cela, c'est l'œuvre de Christ dans notre propre vie. Il ne faut pas laisser subsister la possibilité de dire que certaines choses pourraient être trop difficiles à Dieu et qu'on ne pourrait pas en triompher. Cependant, il faut nuancer le propos en déclarant que certains points sont résolus dès l'instant qu'il y a la foi. Et puis que les autres, eh bien, ils vont devenir progressifs aussi. Vous savez, c'est notre façon d'être en Christ qui va déterminer notre délivrance rapide, où les choses se feront dans le temps. Oui. Et cela, ça s'appelle la croissance spirituelle, ça s'appelle aussi la sanctification. Parlons de la condamnation, elle peut revêtir des formes, vous allez dire, différentes. C'est celle d'être condamné par Dieu. C'est-à-dire que là, nous avons été trop loin. C'est aussi être condamné par sa propre conscience, avoir un cœur qui nous condamne. C'est être aussi condamné par notre adversaire, le diable, Satan. C'est aussi être condamné par les autres. C'est aussi être toujours en train de condamner les autres. Le plan de Dieu consiste à nous délivrer de toutes ces formes variées de condamnation. Comme nous l'avons dit déjà plusieurs reprises, c'est la dimension de la réponse divine, la dimension du pardon reçu. Dieu ne condamne plus ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a pris, Jésus a pris notre condamnation à la croix. Nous devons le croire, nous devons déposer le fardeau. Je pense à cette femme qui a été prise en flagrant adultère. Et lorsque elle se retrouve devant Jésus, alors que tous voulaient la condamner, la lapider, sont tous partis. Le Seigneur lui dit, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Non, Seigneur. Alors s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais à une condition. Va et ne pêche plus. Je trouve ces paroles merveilleuses. Il est important que chacun soit fondé sur le fait que le pardon est reçu par la foi si nous remplissons les conditions. Dans 1 Jean chapitre 1, 9, il est dit, si nous confessons si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et puis dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et puis dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de mon nom. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Oui, précisons que toute la gamme des péchés est pardonnée. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'est pas question de nous replacer sous la malédiction quelconque concernant nos ancêtres. J'entends encore des chrétiens nous dire « Ah, mais c'est des choses héréditaires !» Mais le Seigneur, il a coupé le cordon ombilical lorsque nous sommes convertis, non? Non? Oui ou non? Oui? Est-ce que je suis devenu une nouvelle créature lorsque je me suis converti? Donc mon passé, il est derrière moi. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est important aussi. Parce que c'est la faute, si je suis comme ça, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute des grands-parents, etc. Alors, vous savez, on n'en sort plus. Hein. Alors, c'est vrai que pendant un moment, j'ai connu ça, il y a quelques années, voilà, il fallait exorciser, j'allais dire, tout ce qui était héréditaire. Hein. Attendez, moi, si je viens à la conversion, c'est parce que je change de vie, quoi. La vie, elle est passée. Donc c'est ainsi que le passé ne doit plus me condamner. C'est pourquoi, car si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand, mes frères et sœurs, que notre cœur. Amen. Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. J'ai de l'assurance devant Dieu. Je peux me présenter devant Dieu. Même avec mes vêtements sales. Hein, souvenez-vous d'Osée qui vient. Et celui-là, là, avec ses vêtements tout sales. Eh bien, je vais lui changer ses vêtements. Alléluia. Dieu veut changer ton vêtement. Ton vêtement d'iniquité, d'impureté, de cochonnerie. Dieu veut te laver. Lui, il lave plus blanc que blanc, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Ah, merci, Seigneur. Et puis, on revient sur le pardon. C'est donner de la dimension au pardon. Au lieu de toujours, comme je viens de le dire, de rejeter la responsabilité sur les autres, eh bien ceux qui sont en Jésus-Christ s'assurent de ce pardon. Ils cessent d'accabler et de s'accabler. Ils savent aussi accorder le pardon au prochain, sans tomber dans la faiblesse sentimentale qui consisterait à refuser de voir de réelles attitudes mauvaises autour d'eux. Oui, ils peuvent affirmer qu'ils pardonnent vraiment. Mais certains pardonnent sans aller jusqu'à se repentir. Et puis, il y a la dimension par rapport à notre adversaire, Satan. Hein, quand on parle de culpabilité, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Certaines accusations viennent de notre adversaire. Elles peuvent être fondées là où le sang du Christ n'a pas exercé son pouvoir expiatoire. Vous savez, dans notre vie, disons que nous avons livré notre vie au Seigneur, mais parfois on a gardé son jardin secret. Et c'est souvent dans ce jardin secret que nous n'avons pas livré à Jésus-Christ qu'il peut y avoir des choses que le Seigneur n'a pas purifiées. Mais là où est passée la foi, là où est passé vraiment le sang de Jésus, alors il n'est pas question de se laisser accuser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia, amen. Moi je me dis, quand je suis faible, alors Seigneur, je rame. Quand même malade, j'arrive pas. Mais Seigneur, tu es là, toi, tu es au gouvernail. Alléluia. Le Seigneur m'aide aussi dans la prière, je sais que je ne suis pas tout seul. Dieu est là. Dieu est là pour m'encourager, me bénir. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? Oui, il nous faut confesser le pardon de Jésus dans notre cœur. Il faut le dire tout haut. Oui, je suis un homme, une femme qui a été pardonné par Jésus. Tous mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Vous en êtes convaincu?
Oui.
Moi, j'en suis convaincu. Hein? Je peux vous dire. Et puis, il nous faut rejeter les accusations de l'adversaire. Parce qu'elles ne sont pas fondées. Il faut lui dire d'arrêter de nous harceler, d'harceler notre conscience, notre mémoire. Vous savez, dans Zacharie, chapitre 3, verset 2, il est dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'arche. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habit de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon pour toi, mon frère. Dieu est bon pour toi, ma sœur. Sache-le ce matin. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Même l'apôtre Paul, dit, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me soutiendrai plus de leurs péchés. C'est ici la cuirasse de la justice et le casque du salut dont les armes spirituelles sont constituées. Béni soit Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, la dimension maintenant par rapport au ministère de l'Esprit. Être condamné, c'est être comme être obligé, contraint de toujours faire certaines actions, car l'homme subit la loi du pouvoir de ces choses. Il s'ensuit une mentalité de fatalité. Celui qui vit dans cet esclavage-là se croit condamné à y rester. Alors je dis non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas obligé de rester. Il subit avec résignation l'influence de sa nature et son caractère naturel, celle de ses peines et de son ascendant héréditaire éventuel. Alors là, je dis non, mes frères et sœurs. Alors c'est vrai, on pourrait dire c'est la loi du péché, c'est la loi de la chair. Oui, oui, je lutte, mais je ne lutte pas tout seul, parce que Dieu est avec moi. Oui, Paul dit, il y a une loi, il y a la loi du péché, hein, il y a la loi de la chair, mais il y a aussi la loi de l'esprit de vie. Amen. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. Et pour vaincre cette loi, Dieu a créé une autre loi qui est encore plus puissante. C'est celle de l'Esprit qui agit en ceux qui croient, qui se soumettent à l'Esprit de Dieu. La loi du péché tire l'homme vers le bas, mais la loi de l'Esprit tire l'homme vers le haut. La femme aussi, hein. Je vais dire amen, hein, les sœurs, là. Eh oui. Vous savez, c'est un petit peu comme, vous avez regardé les envols des fusées, des stations spatiales. Il y a une énergie extraordinaire, une poussée extraordinaire qui vous propulse vers le ciel. Alors, les fusées, elles vont à une certaine altitude, mais nous, on va jusque dans le ciel de Dieu. Alléluia, dans la présence du Seigneur. Oui, l'important pour chacun de nous, c'est de vivre selon les principes spirituels en se livrant à la discipline divine. Mais pour cela, mes frères et sœurs, il nous faut une relation vivante, vivante avec le Seigneur. Il nous faut sa parole. Tout à l'heure, nous avons chanté ta parole. Elle se donne, elle se lit. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il est dit, je mangeais tes paroles. Alléluia. Je mangeais tes paroles. Merci Seigneur. Nous avons besoin d'être édifiés, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi. Nous ne devons plus continuer à satisfaire les désirs de notre chair. Nous devons savoir vivre à certains renoncements, parce que l'Esprit de Dieu va nous aider. Ça va être l'Esprit de la croix qui va nous montrer que là, Jésus vient nous purifier de tous nos péchés. Et Paul dira dans Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ayez et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et en conclusion, le terme « guérison » appliqué à l'homme intérieur n'est pas inadapté. Et je me dis, Seigneur, merci de me guérir intérieurement. Merci de faire ton œuvre au-dedans de moi. Parce que ce qu'il y a au-dedans de moi, bien, va ressortir à l'extérieur. La joie que tu mets en moi, elle va ressortir. S'il y a de la culpabilité en moi, elle va ressortir. Et elle se verra, d'une manière ou d'une autre. Elle s'entendra dans nos propos. Elle se verra dans nos actions. Mais si vraiment, eh bien, nous sommes édifiés dans notre foi, édifiés par l'Esprit de Dieu, si notre foi est à l'œuvre avec la puissance du Saint-Esprit, alors vraiment, nous serons inspirés par l'Esprit de la croix. Et c'est pourquoi Paul dit « Revêtez-vous de Jésus-Christ ». Oui, le Seigneur veut restaurer notre âme, et c'est bien d'une guérison intérieure que nous avons tous besoin, toujours, en permanence. C'est une expression qui valorise aussi l'aspect divers de notre salut, mes frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Et comme le dit le psaume 23, et je termine là, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alléluia. « Il restaure mon âme. » Oh, que le Seigneur puisse ce matin restaurer votre âme, qu'il puisse bénir votre cœur, qu'il puisse vraiment vous réjouir ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons sentir notre misère, pouvons sentir notre pauvreté, pouvons nous sentir malheureux parfois, parce que nous voudrions bien faire et nous ne faisons pas toujours bien. Seigneur, et tu nous apportes encore ce matin des réponses, des solutions. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu es avec nous, tu nous renouvelles. Et ce matin, Seigneur, ton désir, c'est de nous restaurer tous, chacun. Seigneur, nous venons devant toi, tel que nous sommes. Que ton esprit fasse son œuvre en chacun de nous. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, Seigneur notre Dieu. Je sais que je ne suis pas parfait, mais Seigneur, tu veux rendre parfaite cette œuvre en moi, Seigneur notre Dieu, dans mon être intérieur, Seigneur, pour que je puisse vivre chaque jour cet épanouissement, Seigneur, d'avoir cette présence divine en permanence dans mon propre cœur, dans ma propre vie. Je te loue pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore, dans moi, mais aussi dans chacun de nous ici présents, Seigneur. Ton amour est grand, ton amour est suffisant pour nous prendre chacun individuellement, Seigneur, pour ce qui nous sommes, Seigneur, pour toi qui tu es, Seigneur notre Dieu. Alors Jésus, merci pour toutes choses, dans le nom de notre Sauveur. Amen. Amen.